Bonjour à tous. Je vous propose de faire la connaissance d'un homme généreux et passionné. Il s'agit du guide de montagne Michel Siegenthaler, aujourd'hui paisible retraité, qui réside près de Sion. Au cours de sa carrière, il a fondé sa propre école d'alpinisme et a emmené des groupes de jeunes gravir des sommets aux quatre coins de la planète. Un autre projet a fait pas mal parler de lui. Pour fêter dignement ses 60 ans, il a escaladé, excusez du peu, 60 sommets de 6000 mètres dans la cordillère des Andes. Michel Siegenthaler nous explique d'abord dans quelles circonstances il a fait de l'alpinisme pour la première fois. À lui la parole.
C'était, je crois que j'avais 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais été à Evolène, à la cordée d'Evolène. On m'avait payé une semaine ou engagé une semaine, j'en sais rien exactement. Et on avait fait quelques sommets, et puis dont un, l'Aiguille d'Atsa. Quand je suis arrivé, il y a un endroit où c'est assez impressionnant parce qu'on arrive sur l'arête, puis on voit un relais en bas. J'ai regardé là-bas, j'ai dit, oh non, plus jamais je mets mes pieds sur un de ces talus, ça fait trop la trouille. Bon, sommet redescendu, puis j'ai quand même continué à y aller hein, sur ces talus.
Mais vous avez quand même eu un déclic pendant cette expérience-là?
Non, c'était pas spécialement. J'ai dit, ouais, pas maintenant. Ou bien, c'était joli, ça me plaisait, même que j'ai eu la trouille, il faut dire. Mais c'était pas le déclic.
Et justement, est-ce que le déclic s'est fait un petit peu plus tard dans d'autres circonstances?
Oui, c'était nettement plus tard parce que entre-temps, j'ai fait du football. J'étais gardien, puis même bien débrouillé. Par contre, j'aimais le foot, mais c'était pour moi trop. Il y avait juste une heure et demie, plus les entraînements le soir. J'aimais bien et tout, mais ça ne me suffisait pas. Et je me suis dit, après j'étais apprenti, mécanicien de précision. Puis là, alors ça me pompait. Hein, parce que être coincé entre quatre murs, ça, j'avais de la peine. Tout, du matin au soir, et puis quand je voyais le soleil dehors, le grand beau, je dis, ah non. Non, quand j'étais en montagne, il faisait beau et tout. Non. Moi, je veux faire autre chose. Je veux travailler en montagne, je veux faire quelque chose en montagne.
À l'âge de 26 ans, vous avez obtenu votre diplôme de guide. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour vous? Quel souvenir?
Ah ben, c'est clair que quand on a des examens, quand on a des choses comme ça, comme guide, puis comme je voulais travailler du métier, j'étais tendu, c'est clair. Puis là encore, j'ai fait un endroit, je me suis mis sur le derrière, je me suis fait mal à un doigt. Alors ça a été toujours difficile en disant, est-ce que pour les experts, parce que je me suis flanqué une fois sur le derrière, est-ce que c'est fini?
Mais vous êtes tombé pendant un examen ou quelque temps avant
hein, non, ou... lors d'une course. Oui. Lors d'une course, pendant les examens, donc la semaine d'examen.
Ouais.
Alors c'est clair que si l'expert m'avait dit non mais c'est pas grave comme ça, ça m'aurait décontracté peut-être, mais c'est pas leur but. Hein. Il faut qu'ils voient les jeunes qui sont là, est-ce qu'ils arrivent à gérer si une fois, même en tant que guide, tu tombes des fois sur le derrière. Alors il faut pouvoir gérer avec les clients après malgré tout.
Michel Siegenthaler, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à un autre épisode de votre vie. À l'âge de 34 ans, vous avez été nommé directeur technique du centre alpin d'Arola. Ça a duré 7 ans au total. Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience?
Alors, des super souvenirs. Parce que c'est amusant parce que quand j'étais jeune, j'étais dans une école d'alpinisme, un peu dans ce style. Et maintenant que je suis guide et puis que j'ai une direction d'un de ces centres de jeunes, je me disais, la roue tourne et puis à un moment donné, c'est moi qui essaye de donner du plaisir aux jeunes que quelques années avant, on a essayé de me donner. Et ça, c'est des souvenirs qui sont sympas, de voir que des jeunes, pas tous, mais certains qui disent tout d'un coup, ouais, c'est génial la montagne, ils ont du plaisir de grimper, ils ont du plaisir d'être en haut. Ça, c'est un plus.
Michel Siegenthaler, pour vos 60 ans, vous avez décidé de gravir 60 sommets de 6000 mètres dans la cordillère des Andes. À cette occasion, on a pas mal entendu parler de vous dans les médias. Pourquoi avez-vous décidé de relever ce défi?
Alors, c'est lors d'un retour d'une de ces expéditions avec des clients. Je savais que dans les Andes, il y avait énormément de sommets de 6000 mètres. Et puis, l'idée m'est venue de faire une fois une série de ces 6000. Et comme ça venait mes 60 ans à approcher, pourquoi pas faire 60 sommets dans les Andes pour mon anniversaire.
Durant cette aventure, vous avez perdu à un moment donné 10 kilos. Est-ce que cela vous a beaucoup inquiété ou votre famille?
Ouf, la famille ne m'ont pas vu, j'étais sur les talus là-bas. Mais les 10 kilos, non, pas du tout. Alors, j'ai peut-être même pas remarqué, moi. C'est la première fois que j'étais sur une balance. J'ai dit, oh, là, il y a une perte.
Mais dans votre corps, est-ce que vous vous êtes senti un petit peu plus faible à cause de cette perte de poids?
Au contraire, parce que plus léger, plus d'endurance. Et je pense que j'allais beaucoup plus vite à ce moment-là. D'ailleurs, à partir du 15e, 20e sommet, l'enchaînement a été beaucoup plus rapide. Hein. Je pouvais faire des sommets des 2000 mètres de démêlé sans trop de problèmes. Je dirais peut-être que les 4-5 derniers sommets, parce que ça c'est de nouveau dans la tête que ça se passe, on voit que le but approche. Peut-être que là, il y a eu un petit peu une fatigue. Et c'est des sommets qui étaient très techniques dans la Cordillère Blanche. Là, peut-être il y a eu un coup de fatigue. Alors là, j'étais content qu'il y avait justement un des jeunes qui était avec moi pour faire les sommets ensemble.
Combien de temps au total du premier au dernier sommet
Ça a été... Bon, il y a eu tout d'un coup à Noël, il y a eu quand même une semaine ou deux où j'étais une pause, quoique c'était 4-5 jours de pause. Mais seulement, ce qu'il faut penser, c'est que tous les sommets, la distance entre le sommet le plus au nord et celui le plus au sud, c'était quand même 4500 km. Et puis, il faut rentrer dans des vallées, et puis c'est pas des routes...
Les autoroutes.
Ah non, et puis autoroutes, et puis des fonds de vallée ici, c'est tout est goudronné, tandis que là, c'est des pistes où il faut des journées entières pour aller d'un endroit à l'autre. Donc, une dizaine de mois, et je trouve que c'était malgré tout très rapide.
Est-ce que vous êtes revenu en pleine forme quand vous êtes arrivé en Suisse?
Ici, pour aller sur les sommets, c'était une promenade. Il y avait une telle acclimatation de l'altitude. Au moment où je suis arrivé ici, je pouvais monter sur n'importe quel sommet, je ne remarquais même pas. Il faut bien penser que là-haut, je vivais des mois entiers en-dessus de 4000 mètres. Donc ici, les sommets, 4000, c'est déjà les gros.
Quel moment où vous êtes senti en grand danger durant cette aventure?
Oui, il y a des dangers inhérents à la montagne, c'est sûr. Il y a quand même deux sommets que je voulais gravir où j'ai pas été, j'ai renoncé parce qu'à un moment donné, je considérais qu'il y avait un trop grand danger d'avalanche. Ensuite, il y a eu quand même une ou deux petites chutes de pierre qui n'étaient pas très 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 loin de moi. Mais autrement, le danger, c'était plus, par exemple, sur les pistes où tout d'un coup, tu as un camion qui te vient en face et puis... tu dois sortir la route. C'est la Jeep, nous, avec la Jeep, on devait sortir parce que le camion, c'est tout droit, et puis banzaï, et puis fini. Alors ça, oui, c'était plus dangereux que les sommets eux-mêmes.
Donc avec le recul, beaucoup de bons souvenirs.
Oh, que du bonheur. Non, il y a eu énormément de bons souvenirs. Il y a un contact avec des gens merveilleux. Un petit exemple. Dans une douane entre le Chili et l'Argentine, j'avais fait le sommet. Les douaniers étaient « Ah, mais c'est pas possible, c'est pas possible, t'as été trop vite là, t'as pas été au sommet. » Puis j'ai montré des photos. Ok, c'est bon, on connaît ce sommet. Ensuite, il y avait l'anniversaire du chef de poste chilien. ils ont fait une telle bamboula, l'équipe, et puis ils m'ont invité. Alors tout d'un coup, t'es avec qui boivent comme des trous. Chacun avait un poulet devant lui, et puis qui mangeait ce poulet. Et puis ben, moi aussi, je devais manger, mais j'avais absolument pas faim. Mais une ambiance incroyable.
Michel Siegenthaler, si vous le voulez bien, on va parler maintenant d'un autre défi que vous avez relevé avec brio. Entre 2006 et 2010, vous avez emmené un groupe de jeunes escalader des sommets aux quatre coins du monde, en les emmenant chaque année à une altitude de 1000 mètres plus haut. Vous avez donc commencé dans les Alpes et terminé dans le massif himalayen. Quel souvenir cette aventure vous laisse ?
L'Elbrouz, ça a été extraordinaire parce que Russie, oui. Je ne connaissais pas. Il y a eu des trucs effarant de voir par exemple un téléphérique où c'est les câbles qui tiennent le pylône. C'est spécial. D'ailleurs, on était tous un peu tendus quand même. Ensuite, dans les Andes, d'être avec une quinzaine de jeunes dans les Andes, pour eux, c'est un autre monde. Et certains de ces jeunes, c'est la première fois qu'ils sortaient de l'Europe. Donc, c'était extraordinaire.
Mais est-ce qu'il y en a certains qui sont partis à l'étranger, qui n'ont pas pu faire des ascensions parce que vraiment, psychiquement, peut-être, ils n'étaient pas en forme ou pour une autre raison ?
Non. Par exemple, l'Elbrouz, tout le monde n'a pas été au sommet, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, il faisait d'ailleurs très froid. Ensuite, à un moment donné, quand t'es tilt. Hein. Et puis là, il y avait des aides de là-bas qui les ramenaient à la baraque, là. Mais ça, c'était pas le grand problème. Tout ce qui était autour était aussi très important. On a fait des sommets, des petits, plus petits sommets dans les alentours que tout le monde en a fait, un ou deux.
Avec ces groupes de jeunes, est-ce qu'il y a eu quand même une fois où vous avez senti de fortes tensions au sein du groupe et où ça a été problématique ?
Forte tension, il y a des tensions toujours, c'est clair, entre eux parfois. Mais comme c'était des jeunes entre 16 et 21 ans, il y a beaucoup de choses qui se réglaient entre eux. Et ils savaient très bien que toutes ces tensions, quand c'était des tensions pour la montagne de peur, là, c'est moi qui essayais de mettre un peu du calme là-dedans, mais quand c'était des tensions de jeunes, je n'intervenais pas beaucoup, sauf si tout d'un coup il fallait juste pousser une boîlée. Mais ce n'était pas nécessaire. Les tensions, c'était parfois, je pense, d'aller dans l'inconnu pour eux. C'est peut-être un mot un peu fort, tension. Mais je sais que quand on a été une fois en Amazonie, donc lors du séjour dans les Andes, l'Amazonie, c'était l'inconnu absolu. Donc là, il y a eu quand même des moments qui étaient plus tendus que dans les montagnes. D'ailleurs, quand je leur dis, maintenant, quand je parle à un de ces jeunes, il me dit, ah nous, le moment le pire, c'était dans la forêt vierge. Entre les moustiques, l'humidité à 100% et tout ça, c'était l'horreur, ils me disent.
Michel Siegenthaler, lors de vos nombreuses expéditions, est-ce qu'il y en a eu une ou l'autre où vous vous êtes dit, cette fois-ci, je ne vais pas m'en tirer, je vais y rester ?
Non, alors ça pas, non.
Il y a eu peut-être un petit peu de chance aussi, il n'y avait jamais eu vraiment une fois où des conditions météorologiques ou une blessure a fait que vraiment vous vous disiez, mais j'arriverai pas à redescendre vivant.
Oui, je me suis cassé la figure plusieurs fois, ça c'est clair et net, hein. J'ai pris des avalanches, j'ai fait des chutes, c'est clair. Mais j'étais une fois quand même dans le coma à un moment. Mais bon, ce n'est pas lors d'expédition. Ça, c'est lors d'ici. Donc, dans les 4000 d'ici. Hein. Mm-hmm. En hiver et comme ça avec un collègue. Mais lors d'expédition, non. Avec des jeunes ou avec des clients, c'était non. Parce que le guide, il est pour guider, pour amener ces gens à bon port, à leur procurer du plaisir. Donc il ne faut pas rentrer à la limite. Ce n'est pas ça le but de l'exercice. Les clients ne t'embauchent pas pour aller faire des trucs à la limite. Parce que quand j'ai 3-4 personnes, c'est pour, pas pour faire des choses extrêmes, parce que c'est très souvent, ils n'ont même pas du plaisir dans les choses, ou ils ont trop peur. Mmh. C'est pas ça le but.
Et lors de ces moments difficiles, avalanches dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de pénible à vivre psychiquement, ou dans le fond, ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de grand berger.
Oh là là, t'as pas le temps de réfléchir. Tu te dis, lors de la plus grande, enfin, j'en ai pris plusieurs, mais la toute grande, c'était dans les Grisons, c'était une immense. Quand ça a vraiment, c'était comme un coup de canon. À ce moment-là, j'étais sur une grande plaque de... On appelle ça des plaques avant. Monstre, morceau. J'ai dit... J'étais debout. J'ai dit, si ça ne casse pas, je reste debout jusqu'au fond. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait une falaise. Mais tu n'as pas le temps de... Moi, je ne peux pas dire que j'ai revu toute ma vie parce que... Pas du tout. Hein. Mmh. J'ai lutté pour être dessus, pour... Puis la chance, quoi. Mmh. Je suis arrivé au fond, c'était quand même une monstre descente. Mais j'étais encelé jusqu'à la taille, mais dehors. Donc, j'ai jamais eu le temps d'emberger, parce que dans ma tête, c'était tout de suite, maintenant, il faut lutter pour sortir de ce bazar. Sauf la fois où, à l'Adler Pass... Là, je suis tombé dans une crevasse.
Tu te trouves à quel endroit ?
Adler Pass, c'est dans la région de Saas-Fee. Mm-hmm. Là, j'étais pris dans une avalanche. On était deux, collègues guides de Val d'Airain. On faisait des sommets en hiver, traverser des Michabel, et puis on voulait faire plusieurs. Et là, il y a une avalanche qui nous a pris. On était encordés. On marchait. Et puis, à un moment donné, ça a aussi cassé. Moi, je suis tombé dans la crevasse. L'autre guide... Il a passé par-dessus, puis comme on avait une corde, ben moi j'ai fait comme un coinceur, j'ai arrêté, puis il est venu me ressortir du trou, là. Là, j'étais dans les choux, alors là, je ne me rappelle pas. Il y a 2 jours que je ne me rappelle pas, puis ça va très bien.
Suite et fin de cette interview, j'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage quelles questions ils désiraient poser au guide valaisan. Voici d'abord la question de Nicolas de Noès. Au terme d'une ascension, avez-vous ressenti une émotion que vous n'avez jamais ressentie ailleurs ? Michel Siegenthaler a répondu que c'était difficile à dire. Il nous en donne la raison.
Parce que des émotions, il y en a très souvent sur toutes les montagnes, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, d'amener des personnes sur une petite montagne, simplement le Pindarola ou comme ça, et puis qu'on voit que ces personnes pleurent de joie, ben, ça nous prend aux tripes. Et ça, c'est une certaine émotion, ça c'est clair. Ensuite, d'autres émotions, comme par exemple l'Aconcagua dans les Andes, d'arriver tout seul au sommet lors des 66 000, là je m'étais bien battu pour y arriver. C'est aussi une émotion d'avoir atteint un des grands sommets des Andes, seul, dans mon projet. Ça, c'était aussi une, mais plus personnelle. Une autre émotion, c'était dans un autre sens, c'est d'amener tout un groupe de jeunes au sommet de l'Elbrouz.
En Russie, donc. Hein.
En Russie, oui. On était tous gelés, parce qu'il faisait très, très, très froid, mais c'était une joie immense. Et surtout avec un groupe de jeunes. Et donc, c'est... différentes émotions, est très difficile à dire laquelle serait celle qui est la plus forte. Je pense que toutes étaient très fortes. Et ça pendant pas mal d'années.
Alors, je m'appelle Frédéric, j'habite Sion. Je te pose la question de la solitude. Comment la définis-tu? Et à quel moment l'as-tu ressenti au plus fort?
Alors, ici, dans nos Alpes, la solitude en montagne, je pense que c'est difficile à la trouver. Ou bien alors en plein hiver. Ça, c'est... Il y a partout du monde, il y a toujours du monde. Et si on est sur un sommet, puis on regarde un peu autour, il y a toujours un endroit où on voit ou des bâtiments, ou le soir, une lumière, ou la nuit, une lumière. C'est peut-être plus difficile. Par contre, il y a d'autres endroits... Même ici, on est en plein milieu d'une forêt, il n'y a pas besoin de spécialement aller sur un sommet, et tout d'un coup, tu es seul. Alors là, oui, la solitude existe, mais passagère, très courte. Par contre, si on est dans une région comme les Andes, la solitude, là, oui. On est des journées entières seul. Et là, des fois, elle est pesante, parce que le secours n'existe pas. Ou bien, s'il y a du secours, c'est 3 jours après, tu as le temps de passer de l'autre côté facile. Et oui, dans ces endroits, la solitude existe parce que c'est beaucoup plus vaste, c'est moins organisé qu'ici, dans ce sens, oui.
Pourquoi est-ce que les secours sont beaucoup plus lents là-bas?
Déjà, la montagne est moins courue qu'ici. L'organisation, les distances, hein. Ici, il n'y a pas de distance, ici, c'est en hélicoptère de partition, on est en 10 minutes, on est n'importe quel endroit des Alpes, pratiquement. Là-bas, il faut des heures. Puis d'ailleurs, il faut déjà aller à l'endroit où il y a un hélico, et ça, c'est peut-être à des centaines de kilomètres. Et comment y aller? Il n'y a pas de route, il y a des pistes, et c'est impossible. Et la radio, ici, une radio, on est pratiquement partout. On a un contact, mais là-bas, la radio, ben voilà.
Voilà, il me reste à remercier chaleureusement Michel Siegenthaler pour cette interview. Et surtout, j'aimerais lui donner un coup de chapeau parce qu'il était mécanicien de précision. Il se sentait vraiment à l'étroit dans cette profession. Il sentait qu'il avait besoin d'autre chose. Et il a osé quitter sa profession de base pour faire son diplôme de guide et vivre de sa passion. Un grand merci également à tous nos éditeurs et à bientôt.